La mission évangélique Vase d'honneur a le plaisir de vous présenter le message du pasteur Mohamed Sanogo, premier responsable de l'église. Nous vous souhaitons un agréable moment à l'écoute de la parole.
Amen. La parole de Dieu nous enseigne les principes de la relation avec Dieu, notre communion avec Dieu, notre vie de prière. C'est dans ce groupe-là qu'on peut parler du salut. Amen. Mais la Bible aussi nous enseigne les lois de Dieu pour vivre sur cette terre. Amen. Alléluia. Les principes et les lois ne sont pas directement rattachés à l'intimité avec Dieu. Si un païen applique les lois, elles vont fonctionner dans sa vie. Ce n'est pas au fait qu'il soit croyant ou qu'il ne soit pas croyant. C'est une loi. Elle ne trie pas. Elle ne regarde pas si tu crois, elle ne regarde pas si tu crois en Dieu ou si tu ne crois pas en Dieu. Elle ne donne rien en ce qui concerne cela. La parole de Dieu contient donc ses lois. La parole de Dieu contient donc aussi la communion avec Dieu. Alléluia. Ceux qui appliquent les lois sur la terre, les lois divines, c'est ceux qui connaissent quelques succès, mais ils ne réussissent pas. Parce que lorsqu'ils mourront, ils seront perdus pour l'éternité. Le problème avec les croyants, avec nous, c'est que nous croyons simplement que parce que nous appliquons les principes de l'intimité avec Dieu, les lois-là nous seront données sans effort. Ça veut dire, si je prie, il n'y a rien à faire, tout ce que je fais dans la vie va réussir. Ce n'est pas vrai. Si tu pries, que tu crois en Dieu, que tu pries le Seigneur, tu vas aller au ciel. Tu es son fils, tu es sa fille, c'est bien. Mais ce n'est pas la prière, par exemple, qui te donnera de l'argent. La prière est une semence qui apporte certaines choses. Elle te donne la communion avec Dieu. Lorsque tu vas prier, quand tu vas t'approcher de Dieu, Dieu, dans ta communion avec lui, va t'expliquer certaines choses. Alléluia. Quel que soit le nombre de graines d'orange que tu vas semer, tu ne vas jamais moissonner des mangues. La quantité de graines, de semences d'orange ne donne jamais de manque. Amen. Chaque chose sur la terre, la Bible dit, aussi longtemps que la terre va exister, il y a la loi de la semence et de la moisson. Ça veut dire, si je veux récolter quelque chose, je dois semer ce même fruit. Et je vais moissonner en quantité. Amen. L'avantage que nous avons, nous les croyants, c'est d'avoir la possibilité d'entrer en communion avec celui qui a écrit les lois. L'avantage que nous avons, c'est que nous avons en même temps le livre qui décrit toutes ces lois. Nous l'avons. Les païens ne l'ont pas. Ils sont obligés de le découvrir par expérience. Ils apprennent dans la vie, ils marchent, ils découvrent. Mais les lois, ce sont les lois. La loi dont on parle souvent, la loi de l'apesanteur. La loi de l'apesanteur, c'est une loi simple. Tout objet est attiré vers le sol. Quelle que soit ta communion avec le Saint-Esprit et avec Dieu, si tu te mets sur le toit de l'hôtel communal et que tu sautes, je t'assure que tu ne vas pas t'envoler vers le ciel, tu vas redescendre ici. Ça n'a rien à voir avec la chrétienté. La loi de la pesanteur ne trie pas. Si vous mettez un bébé au-dessus d'un immeuble et que vous le laissez tomber, il va mourir. On ne va pas dire, oh, mais qu'est-ce qu'il a fait? Un bébé innocent. Pourquoi Dieu permet à ce qu'il meure? Dieu, c'est quelle injustice ça? L'enfant a fait quoi? Non, il y a une loi qui dit de tout objet attiré vers le sol. Et si tu laisses l'enfant à une certaine distance, s'il atteint le sol, il va mourir. Et tout le monde le sait. Donc, Dieu veut que l'enfant vive. Mais pour que l'enfant vive, il faut que les parents de l'enfant mettent l'enfant dans des lois. Il y a la loi. Si tu ne manges pas, tu vas mourir. Ça n'a rien à voir que tu pries pas. Ça n'a rien à voir. Alléluia. 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 Et ce qui nous aide à vivre sur cette terre, parce que en attendant le retour de Jésus, nous attendons le retour de Jésus, Dieu veut que nous étudions sa parole, nous puissions connaître les lois pour faire venir son règne. Nous sommes déjà sauvés en Jésus-Christ. Nous sommes sauvés en Jésus. Maintenant, mais qu'est-ce qu'il enseigne? C'est notre Père qui a créé ces lois. Et il y en a énormément. Il y en a beaucoup. Nous avons la capacité avec le Seigneur de les connaître. Lorsque vous comprenez le fonctionnement du loi, vous avez un avantage. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. dis à ton voisin, connais la parole de Dieu. Connais la parole de Dieu. Voilà, donc si les Écritures devaient s'arrêter seulement à la communion avec Dieu, à la vie de prière, on n'aurait pas eu besoin qu'il y ait un si grand livre. Ça allait être deux lignes. Crois en Jésus, prie, veille tout le temps. Voici la Bible. Mais si Jésus dit, à la fin de ce livre, il dit, n'ajoute rien à cette parole, ne retranche rien, ce qu'il est en train de dire, ça ne veut pas dire, est la Bible en gros, dans son ensemble, ça veut dire simplement, tout ce que Dieu a dit à l'intérieur, ne le retranche pas, et n'y ajoute pas. Donc si Dieu parle des lois, c'est qu'il en parle. Il ne faut pas ôter cela dans ton esprit en disant, ce principe-là n'est pas utile pour mon salut. Il n'est pas utile pour ton salut, mais il est utile pour que toi tu fasses venir le règne de Dieu sur la terre. Alléluia. Pour que tu sois sauvé, il faut que tu croies en Jésus. Mais si c'était seulement croire en Jésus, tu vas aller au ciel. Si c'était le seul commandement là, on allait faire, c'était deux lignes seulement. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Mais la Bible donne un ensemble de choses. Amen. Vous êtes des vainqueurs, vous êtes des champions. Vous êtes nés pour triompher. Vous êtes nés pour vaincre. Mais la guerre a des règles. Il faut les connaître. Alléluia. La Bible nous appelle vainqueurs parce que nous sommes en communion déjà avec le véritable. Mais la guerre pour laquelle on nous appelle des vainqueurs a des règles, a des lois. Et parmi ces lois-là, il y a ce qu'on appelle la loi des saisons. Il faut savoir faire chaque chose en son temps. Il y a un temps pour tout. Tout ce qui existe sur la terre a un temps. Tout. Il y a un temps pour parler, il y a un temps pour se taire. Il y a un temps pour agir, il y a un temps pour ne pas agir. Il y a un moment pour semer, il y a un temps pour ne pas semer. Il y a un temps pour moissonner, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour entreprendre certaines affaires. Il y a un moment où la même affaire que Dieu vous a demandé d'entreprendre, il va vous dire de ne pas entreprendre parce que ce n'est pas le bon moment. Pas parce que l'affaire en elle-même n'est pas la volonté de Dieu, mais tout simplement parce que ce n'est pas la saison. Dieu a mis des saisons en toutes choses. Alléluia. Si un homme veut avoir un enfant, si un couple veut avoir un enfant, il y a une saison. Dans le cycle des femmes, il y a une saison. Il y a une saison de fertilité, il y a une saison, il n'y a pas de fertilité. C'est comme ça. Il y a des saisons en toutes choses. Décider d'agir est une bonne chose. Avoir de l'audace est une bonne chose. Mais il faut connaître les saisons. Si vous ne connaissez pas les saisons, vous frappez dans le vide. Vous perdez beaucoup de temps, vous perdez beaucoup d'énergie parce que vous agissez mal. Alléluia. C'est ce que le Seigneur décrit dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 3. Et tout ça, c'est la sagesse. Et cette sagesse-là se voit au travers de la vie de tous les jours. Et on a lu dans les Écritures, par exemple, dans ce passage de 1 Chronique, chapitre 12, verset 32. Il est dit, « Des fils d'Issacar ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël. » Autrement dit, il y avait des hommes en Israël qui avaient l'intelligence des temps. Et c'est ce que nous sommes en train d'apprendre. Les promesses qui étaient vraies pour Issachar sont vraies aujourd'hui pour nous. Dieu, par le Saint-Esprit, te donne de connaître le temps. Et quand tu lis Ecclésiaste chapitre 3, à un moment donné, donc, il dit, Dieu a mis en l'homme la pensée de l'éternité. Les saisons, là, ça existe en nous. Il faut les discerner, il faut les comprendre. Il ne faut pas les ignorer, il ne faut pas les mépriser. Alléluia. C'est une caractéristique essentielle des personnes que vous voyez réussir dans la vie. Elles utilisent, elles font, par exemple, des genres d'affaires. Et même chez les païens, ils savent à quel moment telle affaire sera favorable. Il y a eu un moment donné où c'était la saison informatique. Que tu sois païen, que tu sois chrétien, si tu investissais dans cette période-là, dans le domaine de l'informatique, tu allais prospérer. Vous n'allez pas venir voir donc un païen qui ne croit pas en Dieu et qui applique cette loi pendant la saison où l'informatique sera rentable. Il applique cela, même s'il dit que Dieu n'existe pas. C'est une loi. Il va prospérer. Vous allez venir dire dans ce moment-là, non, Dieu est contre nous. Des païens comme ça. Mon frère, c'est pas un des païens. Ce sont des lois. Alléluia. Alléluia. Et Dieu va nous reprocher lorsque nous serons près de lui au ciel, lorsqu'il va dire, mais toutes ces choses, je vous les ai dites dans ma parole. Eux, ils ont discerné. Ils sentent qu'il y a des saisons. Et le peuple de Dieu, donc, était objectivement qu'à savoir les saisons. Et qu'est-ce que nous avons enseigné depuis le début? On a dit que chaque chose, donc, a une saison, selon ce que Ecclésiaste chapitre 3, à partir du verset 1, dit. Toutes choses, même le temps pour bâtir une maison, le temps de construire, le temps d'avoir des enfants. Il y a une saison pour avoir des enfants. Il y a un temps favorable pour avoir des enfants. Ce n'est pas parce que simplement tu es fertile aujourd'hui qu'il faut avoir un enfant. Si tu es encore chez tes parents, ce n'est pas sage d'avoir un enfant. Si tu fais un enfant avant le temps favorable, tu vas souffrir beaucoup. Il y a un temps aussi pour enfanter. Alléluia. Alléluia. Dis avec moi la saison. La saison. Alors nous avons dit ceci, c'est qu'il y a deux grandes formes de saison. La première, c'est quoi? Les saisons de la vie. Les saisons de la vie. Et la deuxième saison, c'est quoi? Les saisons cycliques, les saisons atmosphériques. Donc c'est deux groupes de saisons. Il y a deux groupes de saisons. Les saisons de la vie et les saisons atmosphériques. Les saisons de la vie, ce sont des saisons qui ne sont pas cycliques. Elles sont divisées en trois groupes, trois grandes saisons. Dans la saison de la vie, vous avez l'enfance, vous avez la jeunesse, vous avez l'âge adulte. Voilà, donc il y a trois saisons. Dieu dit donc que toute chose qui naît a une enfance, une jeunesse et une période adulte. Ces différentes grandes saisons, l'enfance, la jeunesse et l'âge adulte, sont elles-mêmes divisées en périodes. Les saisons sont des périodes. On peut les diviser en périodes. Ce que tu es en train d'expliquer, c'est que même dans l'éducation que tu apportes à ton enfant, vous savez, pour comprendre la sagesse de Dieu, il faut l'observer au travers de ce qu'il a créé naturellement. La sagesse de Dieu, comme le dit le livre de Romains, se trouve dans les choses qu'il a faites. La sagesse de Dieu est là, devant nous. Dans le livre de Proverbes, il dit ceci, il dit, observe. La sagesse crie au carrefour. Elle est à tous les endroits des rues. Elle dit, écoute l'instruction. L'instruction est là. L'instruction est là dans vos enfants. Dans les enfants que vous avez. Pour un enfant donné, vous avez un rêve donné. Mais vous ne lui apportez pas tout à tout moment. Amen. Il y a un moment où vous pouvez crier, réprimander un enfant. Il y a un moment où pour faire comprendre une information à un enfant, vous êtes obligé de lui parler. Il y a un moment où vous ne pouvez même pas faire un reproche à l'enfant. Vous êtes obligé de le pomponner et tout ça. Parce qu'il est bébé. Et je l'ai dit la dernière fois que tu ne vas pas réprimander un enfant de 2 mois s'il a fait pipi sur lui. Mais s'il a 15 ans et il fait pipi sur lui, tu seras choqué. Ce qui est vrai pour les bébés que vous avez est vrai dans toutes les entreprises. Le problème dans tous vos projets, dans votre famille, tout ce qui naît, tout ce qui commence, mariage, boulot, activité quelconque, va passer forcément par ces trois saisons. Et vos actions doivent être fonction. Ça veut dire ce que tu dois faire doit être fonction du temps. Si tu commences une entreprise qu'elle vient de démarrer, ton entreprise est une enfant. Parce qu'elle est une enfant, elle a besoin d'une alimentation précise, d'un comportement donné. Alléluia. Quand tu veux commencer une entreprise, un service de gardiennage, tu emploies des personnes, mais tu ne peux pas te comparer aux sociétés qui sont là depuis 20 ans et essayer de te battre contre elles. Tu es un enfant. Même si l'Éternel t'a dit, ma fille, mon fils, l'entreprise que je vais pénétrer avec toi va prendre tout ce pays. Tu seras une multinationale. Tout le monde passera par toi dans ce pays. Quand Dieu te le dit, c'est le rêve, c'est le destin qu'il donne à ta société. Mais avant d'entrer dans cette destinée, malgré la prophétie, elle passera par une période d'enfance, elle passera par une période de jeunesse et elle va atteindre un âge adulte. Généralement, toute destinée, toute prophétie s'accomplit dans l'âge adulte. Pas dans la période de la jeunesse, ni dans la période de l'enfance. Alléluia! Alléluia! Si Dieu dit à une personne, Dieu t'appelle à le servir, il t'appelle au ministère, mon fils, ma fille, commence le. Que tu le veux ou pas, dès l'instant que tu commences, le ministère est enfant. Le Seigneur te dit, je t'appelle, tu seras le prophète des nations. Ça, c'est la destination finale. Tu ne commences pas le ministère, tu viens de commencer hier avec une carte de visite, prophète des nations. Non. Dis mon frère, qui es-tu, prophète des nations? Pourquoi tu t'appelles prophète des nations? Parce que hier, quand je priais, Dieu m'a dit, je suis prophète des nations. Mais il t'a dit, mais tu es un enfant, c'est le destin. On prend un enfant, tu regardes ton enfant, tu dis, toi, tu seras directeur, bien président de la Côte d'Ivoire.
Mais quand il est bébé,
l'enfant pourra se promener pendant qu'il est à l'école primaire avec une carte. Mais qui es-tu? Chef de l'État de la Côte d'Ivoire. Ah bon? On va te mettre en prison. Le président va penser qu'il y a un coup d'État qui est en train de se présenter. Si tu es jeune, c'est une destinée, c'est une finalité. Combien de personnes commencent à se comporter mal pendant qu'ils sont juste des enfants? Ils commencent à se comporter en fonction de la prophétie. La prophétie dit, tu seras chef de l'État, mais tu ne l'es pas encore. Dans ton âme, dans ton esprit, tu peux t'appeler chef de l'État, tu peux commencer à te comporter comme tel, mais il ne faut pas imposer aux gens. Alléluia. Beaucoup d'entreprises sont mortes. Beaucoup de personnes sont mortes dans leur ministère, ont tué leur vie, tout simplement parce qu'elles ont voulu être considérées selon ce qu'elles seront demain. Et elles ont méprisé l'étape de l'enfance. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que les vainqueurs sont là? Amen. Ça, c'est ce qu'on appelle les saisons de la vie. Alléluia. Et on a dit que pour discerner, connaître, marcher dans les saisons de la vie, il faut connaître cette loi. Notre objectif, en fait, c'est de savoir quelles sont ces saisons. On les a apprises la dernière fois. Et puis, de savoir agir efficacement dans ces saisons. Bien sûr, je ne peux pas tout dire, mais c'est déjà important pour vous d'avoir cette information majeure. Et d'accepter de passer les différentes étapes de votre vie avec humilité. Amen. Si je me marie, c'est nouveau que je me comporte avec mon foyer comme un foyer enfant. Alléluia. Quel que soit ce que je bâtis, c'est encore un enfant. Je dois prendre le temps de poser les pas, les actes de l'enfance pendant que la chose est enfant. Je m'appelle à être chante. Je m'appelle à faire ceci. Je m'appelle à faire cela, que je comprenne que je commence toujours à être un enfant. Alléluia. Je m'appelle au ministère de l'intercession. Il m'a dit que je comprenne que quand je vais commencer le ministère, je suis un enfant, je suis une enfant. Je m'appelle à faire la direction à l'église. La première fois que je commence à diriger, c'est encore enfant. Dieu m'appelle à être chanteur. Je dois comprendre que parce que je suis dans mes premiers pas musicaux, je dois admettre, je dois reconnaître que je suis un enfant. Même si on me dit que j'ai une meilleure voix, quand je t'écoute chanter, vraiment je ne sais même pas. Je trouve que ta voix même est meilleure que celle de Constance, par exemple. Mon frère, le prix que cette dame a payé pour atteindre cela, c'est pas pareil. Ce n'est pas la voix qui fait la maturité. Il y a plein d'autres paramètres qui rentrent en ligne de compte. Alléluia. Alléluia. Il a l'onction. Le pasteur est tel qu'il prêche. Moi aussi, je prêche comme ça. Je ne comprends pas. Pourquoi tout le monde va le voir? Il y a d'autres paramètres qui rentrent en ligne de compte. Ce n'est pas le don qui fait la différence. Il y a d'autres choses qu'on apprend dans l'enfance. Le talent, tu peux l'avoir depuis inné, depuis enfant. Mais il y a d'autres paramètres qui rentrent en ligne de compte. Et il faut connaître les saisons de la vie. Si vous les connaissez, vous les apprenez humblement, vous irez très loin et vous allez manifester pleinement la prophétie de victoire que Dieu vous donne. Est-ce que les vainqueurs peuvent acclamer le Seigneur? Alléluia. Donc, nos sept lois, la première des lois, c'est savoir discerner les saisons. La deuxième loi, c'est la loi de l'autorité. Ce sont les deux lois qu'on a faites précédemment. La troisième loi que nous allons toucher aujourd'hui, c'est savoir consommer le fruit en son temps. Donc, première loi, discerner les saisons. Deuxième loi, l'autorité, la loi de l'autorité. Troisième loi, consommer le fruit en son temps. Quatrième loi, accepte de recevoir les bases durant l'enfance. Cinquième loi, apprends les lois et les clés durant la jeunesse. Sixième loi, multiplie-toi dans la maturité. C'est ce que j'avais dit la dernière fois, mais j'ai reformulé cela. La sixième loi, je peux l'intituler « Règne dans la maturité », au lieu de « Multiplie-toi seulement ». « Règne dans la maturité ». Septième loi, la loi du rachat. Ça, je vais vous expliquer. Je dis donc, quand tu as manqué une saison, les saisons de la vie, parce que les saisons de la vie ne reviennent pas. Les saisons atmosphériques sont des saisons cycliques. Comme je disais tout à l'heure, pour avoir des enfants, c'est cyclique. Voilà. Si tu voulais avoir un enfant, c'est cyclique, tu n'as pas marché, l'autre, on va te donner encore une nouvelle chance. Ça, ce sont des saisons cycliques. Mais les saisons de la vie ne reviennent pas. Tu ne seras plus jamais jeune. Alléluia. Voilà. Tu n'auras plus jamais 2 ans. C'est fini avec ça. Amen. Mais à chaque saison, tu dois avoir un comportement, une attitude donnée. Donc,
La première loi que nous avons étudiée, c'est apprendre à connaître les saisons, hein, discerner les saisons de la vie. C'est ce que nous avons appris. Donc, la vie a trois saisons, l'enfance, la jeunesse et l'âge adulte. La deuxième loi que nous avons étudiée la dernière fois, c'est la loi de l'autorité et du pouvoir. Je dis, utiliser la forme adéquate d'autorité en fonction des saisons. Amen. Alléluia. Elle parle tout simplement, donc, comme je le donnais tout à l'heure en exemple, si je veux dire à un enfant de faire quelque chose, je vais agir en fonction de son âge. Amen. Lorsqu'il est petit, je peux le prendre pour le faire. Lorsqu'il devient plus grand, je peux lui donner des instructions. S'il devient plus grand, qu'il comprend et qu'il ne saisit pas mes instructions, je peux le corriger. Donc, mon autorité, mon pouvoir varie en fonction de l'âge sur l'enfant. L'autorité que j'applique varie en fonction de l'âge. C'est pareil aussi pour vos structures, c'est pareil aussi pour les entreprises que vous dirigez. Amen. Et pour les personnes sur lesquelles vous êtes établis. Donc, j'ai dit qu'il faut travailler à affermir son trône. Amen. La troisième loi, consomme le fruit en son temps. Proverbe chapitre 20, verset 21. Donc la troisième loi, consommer le fruit en son temps, je peux la présenter ainsi, tirer profit d'une chose légitime avant le temps équivaut de la détruire. C'est très important, c'est-à-dire tirer profit d'une chose qui est à vous avant le temps équivaut à détruire cette chose-là. Si l'Éternel te donne une entreprise qui va te faire prospérer, il te dit, commence une entreprise qui va te faire prospérer. Dès l'instant où l'entreprise commence à faire entrer de l'argent, si tu commences à te comporter, si tu commences à jouir des privilèges du DG, ta boîte va mourir. Toute entreprise qu'on vous donne de gérer ou de diriger, avec votre titre, je ne sais pas, de DG, de PDG, de fondateur, d'initiateur du projet, si dès le démarrage de l'entreprise, vous vous offrez déjà une voiture, et lorsqu'on vous demande, on dit, mon frère, tu as pris une voiture, il dit, mais tu connais, tu vois mon rang. Comment veux-tu que je rencontre les ministres avec une vieille voiture comme celle-là? Pourquoi? Toi, tu viens de commencer ta structure, ta petite structure de microfinance. Tu veux te comparer avec le directeur général d'une grosse boîte de la place. Parce que toi aussi, lorsque vous arrivez chez le ministre, on dit, voici les directeurs généraux des banques en Côte d'Ivoire. Vous vous asseyez. Toi, ta banque est née hier. Lui, il dirige une banque qui a près de 100 ans. Quand il voyage, on le met en première classe dans l'avion. Lorsque tu vois sa voiture, tu vois le protocole, tu vois tout autour de lui. Quelque chose te dit, ça, c'est ce qu'on doit donner à tous les directeurs généraux. Mais mon frère, ce n'est pas la saison. Même si tu es directeur général et que tu commences à vouloir utiliser ce pouvoir avant le temps, c'est du désordre. Et tu vas tuer toi-même ta propre boîte et ta propre structure. Les chefs d'État, les directeurs des sociétés dans nos nations ont tué les boîtes, ont tué les structures, ont tué les sociétés parce qu'ils ont voulu jouir des privilèges attachés à leur position. Avant même que la structure, avant même que l'entreprise n'ait produit suffisamment. Les hommes pensent que c'est le titre qui fait que tu dois jouir. Ce n'est pas vrai, mon frère. C'est le temps. Ce n'est pas le titre. C'est un manque de sagesse. Nous, on est pasteurs. Nous, on s'appelle pasteurs. Il y a un pasteur aux États-Unis qui s'appelle pasteur T.D. Jakes. Est-ce qu'on m'appelle pasteur, je peux exiger d'avoir les mêmes honneurs que cet homme? Même si on vient et puis on décide à Abidjan, comme les personnes aiment plaisanter, pour m'appeler Bishop. Dieu s'en appelle Bishop T.D. Jakes. Même si c'est le même Bishop, le même mot là, mon frère. Je laisse même Titi Jex, pasteur Karambiri, papa Karambiri qui est là. Ça s'appelle pasteur Karambiri. Même si dans mon église, j'ai plus de 2000 personnes, mais est-ce que je peux m'attendre à avoir les mêmes honneurs que papa Karambiri dans un programme? Moi-même, je refuse d'avoir à prêcher à la même chaire que lui. On dit, on l'a invité comme orateur. Comme orateur invité, parce que ça nous coûte. Je dis non, mon frère. Si cet homme prêche, moi je m'assois. Je ne suis pas son collègue. On s'appelle tous pasteurs. Mais lui, il a passé les saisons de la vie. Moi, j'ai des saisons que je n'ai pas encore vues. Alléluia. Et si vous n'avez pas cette conscience de la vie, vous allez faire beaucoup d'erreurs et vous allez vous tuer vous-même. Car quand vous arrivez dans un endroit, les pères dans le domaine, ils te regardent, ils savent que tu vas mourir. Non, ils le savent. Ils savent comment te tuer. Tu n'as pas, comme on dit, tu n'as pas les reins solides. Tu ne sais pas comment on arrive là, mon frère. Alléluia. Alléluia. Et c'est ce dont parle cette troisième loi. Avec le verset suivant, Proverbes chapitre 20, verset 21, dit ceci, « Un héritage promptement acquis, dès l'origine, ne sera pas béni quand viendra la fin. » Un héritage promptement acquis dès l'origine. Un héritage, l'expression de « un héritage », ça veut dire « c'est ton héritage, c'est ce qu'on te doit. » Il y a des choses qui sont à vous. Vous commencez à travailler, il y a des salaires qui sont votre salaire. En tant que normal, c'est normal que vous ayez ce salaire. Il dit un héritage. Un héritage, c'est quelque chose qui est à toi. C'est ton héritage. Je peux paraphraser ce verset en disant, si tu prends ton héritage avant le temps, il sera maudit quand viendra la fin. Voilà ce que la Bible dit. C'est ton héritage, mais tu n'as pas le droit de le prendre. Bon, n'est pas le droit, c'est pas juste. Si tu en jouis avant le temps, alléluia, lorsque vous commencez une structure, vous-même, ne vous donnez pas de salaire. Vous-même, privez-vous. Par contre, tu payes les employés. Je vous explique. Une mère, lorsqu'elle a son enfant, ce sont les saisons de la vie. C'est vrai avec l'enfant. Le parent ne se comporte pas avec l'enfant dans le sens que l'enfant peut le payer pour son service. Mais pour entretenir l'enfant, tu prends des filles de maison, des nounous, que tu payes. Amen. Toi, ton salaire, tu ne vas vraiment le sentir que dans l'honneur, dans le respect, dans l'entretien que ton enfant te donnera dans tes vieux jours. Mais tu ne jouis jamais de l'enfant pendant qu'il est enfant. Donc, toute entreprise qui est enfant, tu ne dois pas jouir d'elle. Tu dois plutôt investir en elle. Si tu veux commencer à jouir de ton droit, ça veut dire quoi? Que l'enfant, parce qu'il est bébé, soit là. La Bible dit, enfant, honorez vos parents. Mais un enfant de 2 mois, comment est-ce qu'il peut honorer ses parents? C'est un héritage, l'honneur que ton enfant te doit. L'entreprise te doit du respect. C'est ton héritage, c'est ton droit. Mais il y a un temps pour en jouir. Est-ce que quelqu'un avec moi? Est-ce qu'il y a un vainqueur qui avait moi? Alléluia. Un autre passage encore par rapport à cette loi dit ceci. Ecclésiaste chapitre 10, verset 16. Ecclésiaste 10, 16 dit ceci. Malheur à toi pays, dont le roi est un enfant et dont les princes mangent dès le matin. Dieu dit, malheur au pays dont le roi est un enfant et dont les princes mangent dès le matin. Le matin, c'est le début de toute chose. Dieu dit, il y a un malheur lorsque le prince, ça veut dire celui qui dirige le pays, mange le matin. Dieu nous a fait la grâce de pouvoir aider certaines personnes. Mais vos entreprises s'éteignent. Vous ne démarrez pas. On vous a fait des prêts. Les structures n'ont pas fonctionné parce que vous avez essayé de jouir de votre héritage avant le temps. J'ai aidé récemment une personne. Au départ, moi-même en donnant, je ne comprenais pas bien ces lois. Il m'a dit, je vous laisse mon temps pour commencer vers le Pougon. Un truc de vente, je crois, la tchèque, quelque chose comme ça. Il était sincère. Mais lorsqu'il a eu l'argent, à la période où il a eu l'argent, il n'avait pas d'endroit où loger. Il n'avait pas d'endroit où dormir. Donc, il a pris de l'argent pour aller prendre une maison. Avant d'avoir cet argent, franchement, il dormait dans la rue. Il regardait chez quelques amis pasteurs et il dormait sur les bancs de l'église. Et la journée, il se promène, il essaie de trouver quelque chose à manger. Il vient me rencontrer. Vraiment, pasteur, tu es mon frère, il y a longtemps, aide-moi. Je l'aime dans l'amour de Jésus, je lui donne un coup de main. Il me présente son projet, il dit, écris-moi un projet, il me présente le projet. Il part, il va faire quelque chose de légitime. Est-ce que c'est normal qu'il dorme dans la rue? Non. Est-ce que c'est normal qu'il ait une maison? Oui. Mais lorsqu'il a eu les, je crois qu'on avait donné 100 000 francs, 200 000 francs, lorsqu'il a eu cet argent, fallait-il qu'il prenne une maison? Non. Ce qu'il devait faire, c'était faire le truc et puis continuer à dormir dehors. Parce qu'il a mangé dès le matin. Sa nourriture, c'est quoi? C'était le toit pour le couvrir. C'est son héritage, c'est son droit. Mais il l'a acquis trop tôt. Donc, il a pris l'argent qui était destiné à la tchèque pour prendre une maison. Mais il n'a pas volé. Ce qu'il a fait, ce n'est pas méchant. Mais ce n'est pas sage. Parce que quand tu dormais sur les bancs de l'église, est-ce que tu es mort? Non. Mais est-ce que ta situation sur les bancs est normale? Non plus. Si tu veux changer ta situation, ne mange pas dès le matin. Amen. Donne à la semence de donner d'abord le fruit. Et quand elle donnera le fruit, ne mange pas encore bien. Mange très peu. Il ne devait pas prendre la maison. C'était un manque de sagesse, une mauvaise gestion du temps. Lorsqu'il a pris la maison, payé les cautions, tout ça, il restait très peu pour commencer le commerce. En fait, c'était pratiquement insuffisant. Du coup, il achète les premiers ustensiles, mais il a besoin encore d'une personne pour l'aider. Mais comme il a besoin d'une personne pour l'aider, le temps d'aller chercher la période pour laquelle il a payé le loyer est expiré. Donc, il se retrouve encore en train de devoir maintenant chercher l'argent pour payer le loyer pour ne pas être envoyé de la maison. Donc, lorsque tu lui donnes l'argent pour qu'il redémarre le commerce, mais il vient de se créer une charge d'un loyer mensuel, mais il ne peut pas revenir me voir parce que je lui ai donné l'argent du commerce. Et il rentre dans une chaîne, elle n'a pas fini, et maintenant il survit pour payer un loyer au lieu de créer une richesse pour manger, et la richesse allait lui permettre d'entrer dans son héritage. Est-ce que vous me suivez? C'est pourquoi, écoutez-moi, toute personne qui vient, qui n'a pas d'argent, qui vient me voir, aide-moi à payer mon loyer. Il ne faut pas l'aider. Ce qu'il dit, c'est parce qu'il ne comprend pas cet enseignement-là. On ne peut pas aider une personne à payer un loyer. On ne paye pas un loyer, mon frère. Ça va produire quoi? Et le mois prochain, tu payes ton loyer comment? Je sais que ne pas avoir une maison est une chose qui est dramatique, mais ton présent n'est pas ton futur. Aujourd'hui, tu souffres, mais si tu veux que demain change, tu dois changer certaines choses. Aujourd'hui, tu pleures. Mais quand même, si tu veux que ton lendemain change, tu dois prendre certaines décisions. Qu'est-ce qu'il dit? Ne t'inquiète pas pour ce que tu vas manger, tu vas boire. Ça veut dire, ne mets pas ton souci pour la nourriture du jour. Dieu va s'en charger. Toi, investis pour le futur. Si ce frère avait commencé avec cet argent, son attaché, il continue à dormir dans les bancs de l'église, à manger un repas par jour, l'entreprise allait commencer à tourner. Il allait faire un tout petit bénéfice qu'elle allait lui donner de pouvoir commencer à manger d'abord. Mais il continue à dormir sur les bancs. Il n'a pas mangé dès le matin. Lorsque ça monte suffisamment, alors il est capable d'enlever dans le fruit et de prendre maison. Écoute-moi. Quand tes enfants grandiront, c'est eux qui paieront ton loyer. Mais quand ils sont bébés, ton enfant ne va pas payer ton loyer. Si tu dis, tu fais travailler ton enfant pour qu'il paye ton loyer, tu vas le tuer. Parce qu'il n'a pas l'âge. Dans les saisons de la vie, un enfant ne produit pas. un enfant reçoit. C'est ton enfant. Ton entreprise est enfant. C'est ce qu'on appelle les saisons de la vie. Tant qu'une chose dans ta main est un enfant, tu ne dois pas en jouir. Même si c'est ton droit. Est-ce que quelqu'un avec moi? Quelqu'un a compris la troisième loi? Est-ce qu'on a saisi? Alléluia! Si tu rencontres des personnes que par accident on te donne de l'argent pour monter un projet, s'il te plaît, ne te fais pas plaisir. Si bien sûr c'est dans ton travail de changer ta garde-robe, change ta garde-robe. Mais ne t'habille pas pour te faire plaisir avant que l'entreprise ne soit suffisamment mature pour t'habiller toi-même. Amen. C'est pourquoi Dieu dit que le vêtement et le manger, le boire ne soient pas ta première quête. Ne vous inquiétez pas pour les besoins primaires. Les besoins primaires, le manger, le boire, le vêtement, Dieu s'en charge. Mais vous, cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice. Mais c'est quoi le royaume de Dieu? C'est les lois de Dieu, les lois dont je viens de parler. Ce sont des valeurs qu'il faut rechercher avant de vous inquiéter pour le manger et le boire. Il dit ce domaine-là, Dieu s'en occupe. Je vous dis les frères, une vérité. Si vous agissez de la sorte, vous allez voir. Parce que vous avez agi par la foi dans votre entreprise de la sorte, chaque jour vous allez manger. Et même ce frère-là, s'il écoutait ce que je lui avais dit, il aurait trouvé un toit. Un frère l'aurait pris chez lui. Il aurait trouvé un toit. Dieu allait disposer de toutes choses. Mais si dès que vous avez de l'argent, vous devez consommer, vous cherchez à vous vêtir, vous cherchez à prendre une maison, soi-disant que vous allez d'abord chercher une maison avant de travailler, écoutez-moi, vous ne travailleriez pas et tout ce que vous allez commencer va mourir. Votre maison même, on va vous chasser, comme ce monsieur dont je parlais, bien sûr, comme il ne peut pas payer le loyer, on l'a mis dehors et il se retrouve. Donc, à un moment donné dans sa vie, il a eu près de 200 000 francs, il s'est pris une maison, mais quelques mois après, il a quitté la maison et il continue à dormir encore sur les bancs de l'église. Qu'est-ce qui s'était passé? Rien dans sa vie. Il est parti d'un point, il est revenu au même point. Et il est là encore. Et quelques mois plus tard, il revient. Pasteur, je lui dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, il fallait bien que j'aie une maison. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen, amen, amen. Dis à un voisin, on ne mange pas le matin. Malheur au pays dont les princes mangent dès le matin. Le pays des entreprises que tu dois faire. Attention, tu vas amener une malédiction si tu manges le matin. Je n'ai pas dit de ne pas prendre les petits déjeuners le matin. Prenez vos petits déjeuners. Alléluia. C'est ce qui s'est passé avec nos pays africains. Amen. Les personnes sont arrivées, on se retrouve dans la destruction. On voit les milliards. Le pays n'a pas encore produit. C'est maintenant vous attendez de voir les 4x4 que vous allez vous acheter. Les gros cylindrés que vous allez prendre. Vous voulez voyager? Parce que tu vois les milliards, ça c'est le capital, c'est le fonds pour commencer, mon frère. Parce qu'au début, il y a eu plusieurs partenaires, ils ont déposé dans le compte en banque initiale. Vous commencez, tu commences avec un capital. 50 milliards. 50 milliards, tu regardes 50 milliards. Tu vois une entreprise de notre pays qui a peut-être 50 ans, qui a le même chiffre d'affaires, qui a le même capital initial. Mais à cause du temps, vous n'êtes pas pareil. Le temps fait la différence, mon frère. Et tu vas être là, oui, il gère une boîte, moi aussi je gère une boîte. Partez, vous vous retrouvez au colloque, tu vois tes copains, ils sont en première classe, dans l'avion, ils ont des grosses Mercedes, ils disent, non, je dois honorer mon pays, je dois honorer mon pays, mon frère. L'Afrique, on est encore pauvre. Mais notre problème, on risque de rester pauvre, tant qu'on va chercher à manger dès le matin. À peine on a une petite structure qui n'a pas produit... Pour embaucher d'autres personnes, pour faire avancer le travail, on se sert. Et quand tu vas demander aux personnes, ils vont te dire que c'est légitime. Ils vont dire comment tu peux concevoir qu'un patron comme moi habite une petite maison. Il me faut un château. Je suis en train de manger dès le matin. Tu as droit à un château. Je n'en dis combien pas. Mais est-ce que c'est le temps? Amen, 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 amen. Alléluia. Si tu aimes cette parole, tu vas acclamer le Seigneur ton Dieu. Amen. Donc, enseignez ça aux gens. Dites, voilà ce que la Bible dit. Amen. Quel que soit ce que vous commencez, comprenez, discernez le temps. Et sachez agir en fonction du temps. Au temps opportun, vous allez voir toute la gloire que vous allez moissonner. Toute la richesse avec laquelle vous allez évoluer. Comment vous allez profiter de la vie. Ce qui est vrai pour vos enfants, est vrai pour tout autre enfant qui naît. Toute chose, il doit suivre ses saisons. Il y a une saison pour chaque chose. Amen. La quatrième loi, maintenant qu'on a appris à discerner les trois grandes saisons dans le bloc des saisons de la vie, qui sont l'enfance. L'enfance qu'on peut diviser en plusieurs saisons. Et généralement, les saisons peuvent se diviser en périodes de trois mois. Donc, dans le ventre, il y a la période que les médecins vont diviser en trois, jusqu'à atteindre les 9 mois. Un enfant, il va aller donc 0, 3 ans, c'est un premier cycle. 3 à 6 ans, c'est encore un autre cycle. 6 à 9 ans, c'est un autre cycle. 9 à 12 ans. Donc, généralement, l'enfance, on la classe de 0 jusqu'à 12 ans. Amen. Après cela, la personne entre dans la phase de la jeunesse. Donc, cette période de l'enfance, c'est une saison de votre vie, c'est une saison des entreprises que vous mettez, c'est une saison de toutes choses, mais elle-même peut être subdivisée en plusieurs autres petites saisons. Amen. Pendant l'enfance, il y a une attitude particulière qu'il faut avoir. Donc, pendant l'enfance de tout projet, pendant l'enfance de toute activité, pendant l'enfance de toute chose, de votre foyer, de tout ce que vous faites, il y a des attitudes et la parole de Dieu en parle. Amen. Je rappelle ce passage de l'apôtre Paul dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 13. Il dit ceci. Quand j'étais enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu adulte, j'ai fait disparaître ce qui est de l'enfant. Autrement dit, quand on est enfant, il faut se comporter comme un enfant. Il faut avoir l'attitude d'un enfant. Si tu te comportes comme un adulte pendant que tu es enfant, ça va te poser un problème. Ça fait du désordre. C'est ce qui s'est passé souvent avec des stars qui ont été célèbres dans la période de leur enfance. Vous avez connu le grand chanteur qui est mort récemment, Michael Jackson. Lorsque vous écoutez sa vie, vous écoutez son témoignage, il te dit, on a volé son enfance. Il n'a pas eu d'enfance. Il était enfant, il est devenu star. Tout le monde voulait le voir. Et dans son âge adulte, il essayait de rattraper l'enfance. On est en même plein enfant avec lui, dormant avec les enfants dans sa chambre, ayant des jouets partout. On lui a volé l'enfance. L'enfance est important dans la vie. Vous ne pouvez pas demander à un enfant de se comporter comme un adulte. Quand on est enfant, il faut être comme un enfant. Si vous sautez cette étape, si vous n'agissez pas comme il faut agir dans la période de l'enfance, vous mettez du désordre dans toute votre vie. Alléluia. Alléluia. Généralement, donc, l'enfance vient pour poser les bases. Amen. Donc, comme je l'ai dit tantôt, 1 Corinthiens chapitre 13, verset 11, dit ceci, « Je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. » Donc, il y a une pensée de l'enfant, il y a un raisonnement de l'enfant. Marc, chapitre 10, verset 15, dit ceci. Marc 10, 15. « Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, n'y entrera point. » 1 Corinthiens chapitre 3 verset 1 dit « Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouvez pas la supporter et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme. » Alléluia. Alors, selon ce qu'on voit dans les différents passages que nous venons de lire tantôt, suite avec l'apôtre Paul, on comprend que l'enfance, c'est le moment où on reçoit les bases, les fondements. Amen. Où on reçoit les bases, les fondements. Donc, si je commence une œuvre nouvelle, parce qu'elle est enfant, je dois rechercher des fondements. Je dois rechercher des bases. Le B.A.B.A. Paul dit, je ne vous donne pas la nourriture solide parce que vous ne pouvez pas la supporter. Amen. Un enfant ne supporte pas ce qui est solide. Une autre chose encore que je vous avais dite la dernière fois en ce qui concerne la période de l'enfant, je dis que vous retrouvez les trois saisons de la vie dans le livre de Matthieu chapitre 7 au verset 7 où il dit ceci, demandez, l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Ce passage merveilleux, Matthieu chapitre 7, verset 7 jusqu'à 8, nous parle des trois saisons de la vie. Il dit, il y a une saison où tu demandes. Dis avec moi, demander. Ça, c'est la saison de l'enfant. Alléluia. Pendant la saison de l'enfant, ce qu'il faut faire, c'est de demander. Il faut être curieux.
Il faut apprendre. Il faut poser les bases. Il ne faut pas jouer aux connaisseurs. Alléluia.
Dans toute œuvre, tout ce que je commence, la saison de l'enfance est favorable à poser les fondations, les bases. Ça veut dire le béaba, pas les choses compliquées. On parle des laits. Elle dit on écrase la nourriture, on te donne. Les choses simples. Amen. Pour la foi chrétienne, si un chrétien vient de naître de nouveau, il ne faut pas lui donner les enseignements carabinés. Même ce que je donne là, même ça, c'est la nourriture solide déjà. L'enseignement, c'est solide. Alléluia. Votre intellect permet de comprendre. Au temps opportun, l'esprit va vous rappeler toutes choses. Les disciples étaient encore des enfants, mais Jésus leur enseignait tout quand même. Il dit, le Saint-Esprit, au temps marqué, va vous les rappeler. Amen. Et je crois que tu vas le faire. Alléluia. Donc, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. La période de l'enfant, c'est quoi? Donc, c'est la période où on pose les bases. Regardez Jésus. Dans la période de l'enfance, elle est marquée par ceci. On le voit donc intervenir à la fin de l'enfance, à ses 12 ans. Il va rencontrer les docteurs de la loi. Qu'est-ce qu'il fait? Il ne les enseigne pas, il leur pose des questions. Il est là pour apprendre. L'enfance est caractérisée par une forme d'humilité pour apprendre. Il faut poser des questions. Tu veux commencer une entreprise? Ne dis pas, oh, je maîtrise. Tu maîtrises ou quoi? Demande aux personnes, demande. Renseigne-toi chez ceux qui ont commencé avant toi. Oh, je connais, on dit commerce de paille. Je connais le circuit. Elles vont ici en Chine. On m'a montré l'adresse. Oh, moi, si je vais aller prendre, je prends et je reviens. Ma soeur, la femme qui fait ça depuis 10 ans, là, elle sait des choses que tu ne sais pas. Tu vas te lever, tu dis, je connais. Tu vas partir, tu vas revenir. Tu vas voir que le prix auquel elle vend son paille, là, et quand toi, tu finis de mettre toutes les péripéties que tu as rencontrées avec les douaniers. Parce que tu ne sais pas le chemin qu'elle prend. Tu te retrouves à la fin, tu ne peux plus vendre ton produit. Écoute-moi, quelqu'un qui fait une affaire depuis des années, il sait des choses que tu ignores. Dans la période de l'enfance, c'est pourquoi moi je vous dis, sur le plan ministériel, mon frère, on pose des questions. Je vais m'asseoir devant un papa comme le docteur John. Je vais voir le vieux Dieu, pourquoi hein? Je suis dans son bureau. Je lui pose des questions. Quand l'église n'était pas... Je prenais mon billet d'avion, je viens jusqu'au Burkina Faso. Je vais m'asseoir devant le pasteur Karambiri. Je dis, mais comment tu gères tel aspect? Comment tu fais ceci? Mon ami, Dieu m'a appelé. J'étais un enfant. Si vous refusez, si vous sautez l'étape des bases, du fondement, ça veut dire du B à B dans ce que vous commencez, vous allez rater votre vie. Le Seigneur t'a appelé. On dit tu es évangéliste. Tu es plus t'asseoir dans les églises. Non, moi je vais aller prêcher. Je vais prêcher. Je dois obéir au Saint-Esprit. Frère. Je dois obéir. Et te voilà de lui en lieu. Beaucoup de jeunes ministères ont fermé dans la ville. C'est pas parce qu'ils n'ont pas reçu d'appel. C'est parce qu'ils n'ont pas accepté la saison de l'enfance. Dieu a appelé Pasteur Zanogo. Dieu m'a appelé. Allons-y, mon frère. On a commencé en 1996. Jusqu'à aujourd'hui, on continue à aller de lieu en lieu pour évangéliser. Viens savoir comment, pourquoi, d'où ça vient. Beaucoup de personnes sont allées, ils ont fait une campagne. Après, ils n'ont plus eu les moyens pour aller faire la deuxième campagne. Et leur mission est morte avant le temps. Dieu t'a donné la sagesse de commencer une entreprise. Il a dit, je vais te bénir dans tel domaine. Tu commences dans le domaine de l'assurance. Dans un domaine, tu as des aînés. Même dans la vente d'Aloco, Aloco, cherche un mentor. Les choses les plus simples. S'il y a quelqu'un qui l'a fait avant toi et qui en avance en ce qui te concerne, approche-toi de cette personne. Pose-lui des questions. Je ne dis pas que tout ce qu'elle fait est juste, mais il est certain qu'elle sait certaines choses que tu ignores. Si vous n'acceptez pas, la Bible dit l'étape de l'enfance, c'est l'étape où on demande, mon frère. Dis à moi, demande. Dieu dit, demandez, l'on vous donnera.
Toi, tu dis, moi, jamais je demande. Demandez, jamais. C'est de l'orgueil, mon frère. Demande.
On appelle d'aller demander l'argent.
C'est pas ce que j'ai dit. Amen. Renseigne-toi. Forme-toi. Pose les bases. Instruis-toi sur le fondement. Le B à bas. Comment ça fonctionne? Comment tu gères ça? Pourquoi tu fais ceci? Quelquefois dans la période de l'enfance, quand Dieu vous met un projet à cœur, il est même intéressant même d'aller faire un stage. De laisser d'abord votre projet. Et puis de vous faire embaucher gratuitement. Pour dire, j'offre mon service. Tu fais quoi? Je suis appelé à faire la couture. Tu es appelé à faire la couture. Ma soeur, laisse. Faut pas aller voir tes parents pour qu'ils te donnent l'argent pour commencer ton atelier. Tu as cousu 2 vêtements, c'est bien. Va t'asseoir chez une couturière qui a un nom et qui travaille depuis des années. Assieds-toi là-bas. Paye ton déplacement tous les jours toi-même. Et va t'asseoir. Et regarde. Dis tantis. Vois un peu comment la comptable gère les entrées et les sorties. Comment tu achètes le pain? Comment tu fais ceci? Comment tu fais cela? Demande. Alléluia. Alléluia. Tu veux faire du riz? Il y a des gens qui font le riz. Demande. Dis bonjour, j'ai envie de faire du riz. Puis-je faire un stage chez vous? Moi-même, je me déplace. Les gens vont accepter cela. C'est quand tu veux leur demander un salaire. Tu vas te dire, mais comment je paye mon déplacement? Je t'assure que si tu agis de la sorte avec le temps, Dieu pourvoira. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen, 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 amen. Amen. Nous allons nous arrêter là. Donc spirituellement, c'est pareil. Dans tous les domaines, c'est pareil. Quand je sais que je commence une chose, qu'elle est nouvelle, je suis à l'étape de l'enfance. Si par la grâce de Dieu, j'ai eu un mentor devant moi, que le nom du Seigneur soit béni. Je peux me retrouver dans une circonstance où je n'en ai pas. Amen. Il y a des livres qui existent. Informe-toi. Il y a des personnes qui n'ont pas le temps d'aller de lieu en lieu pour enseigner. Ces personnes ont écrit des choses. Va prendre leur livre, lis. Ça ne veut pas dire que tu vas faire exactement ce qu'elles font. Mais sois humble. Reconnais que dans ce domaine, tu viens de commencer, tu n'es qu'un enfant. Tu n'es qu'une enfant. Alléluia. Tu veux même travailler dans une structure. Cela te plaît. Arrive là-bas. Il y a des anciens qui sont là avant toi, dans la propre société. Approche-toi de ces personnes. Pose-leur des questions. Dis comment on vient ici. Qu'est-ce qu'on fait là? Amen. Il y a un autre aspect de cette étape-là, qui est la base. Là maintenant, je dis en tant que père, si vous êtes père, que vous avez des enfants, qu'est-ce que vous devez faire? La Bible dit, pendant que l'enfant est enfant, instruis-lui selon les bases, les fondements. Voilà. Donc, le premier aspect, c'est lorsque moi-même, j'ai un enfant que je gère ou que moi-même, je suis un enfant dans un domaine donné. Le deuxième aspect de cette 4e loi que je suis en train de citer, c'est l'éducation que je suis amené à porter. Hein, ce que je dois dire, ce que je dois poser comme acte dans la vie de mon enfant ou dans la vie de ces choses-là. Amen. Nous allons prier l'Éternel notre Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur si Dieu nous a parlé ce soir? Donc la prochaine fois, après la 4e loi sur l'enfance, on va apprendre les lois de la jeunesse. Là, c'est là que le film devient intéressant. La jeunesse. La jeunesse de toutes choses. C'est là qu'on devient adulte. Alléluia. L'enfant, là, on s'amuse. On gère les émotions. C'est le début. On est dans l'euphorie du commencement. Mais la vraie bataille commence dans la jeunesse. Et la jeunesse peut arriver très vite. Ça dépend. Je vous ai dit, il y a 2 mercredis, que la croissance d'une œuvre n'est pas identique, n'est-ce pas? On dit de 0 à 12 ans, c'est l'enfance, mais ce n'est pas vrai pour tout. Ça, c'est vrai pour l'homme. Chez le chien, ce n'est pas pareil. Le chien devient adolescent, je ne sais plus, il devient jeune à partir, je ne sais plus de combien. À 2 ans, un chien, il est adulte à 3 ans. Voilà. Donc, je veux dire, chaque espèce porte en elle-même son temps. Alléluia. Donc, c'est l'homme qui est enfant jusqu'à 12 ans. Ah, c'est l'homme. Mais une autre espèce, ça dit différemment. C'est pourquoi vous ne pouvez pas identifier ça dans des formes de date. Voilà, dans des formes de période. On va apprendre comment on reconnaît lorsqu'on traverse une saison pour passer à une autre. Amen. Lorsque ton entreprise quitte l'étape de l'enfance, qu'elle rentre dans la jeunesse, comment tu le sens? Comment l'environnement change? Lorsqu'un enfant quitte l'enfance et qu'il devient adolescent, il y a un phénomène qui se passe en lui. On appelle la crise de puberté. Donc, le corps commence à changer. Cette loi-là est vraie dans toute entreprise, dans tout projet, dans tout ce que vous faites. Il faut juste observer. C'est ce que j'appelle la loi de l'observation. Il faut juste observer. Tout ce que vous tenez dans la main, à un moment donné, ça rentre dans la jeunesse. Quand ça commence à entrer, vous le sentez. Si vous êtes observateur, si vous savez observer votre fille, vous allez voir qu'elle commence à avoir des seins. Amen. Le garçon, il y a des boutons qui viennent. Les premières petites barbes commencent à sortir. Ça veut dire qu'il y a un phénomène intérieur qui s'est mis en place. On va apprendre comment est-ce que cette transition se passe. Et dès cet instant-là, quels sont les actes, les attitudes, le comportement que je dois adopter dans tout ce que je fais. Ensemble, élevons nos voix. Prions le Seigneur pour les vainqueurs que nous sommes. Alléluia. Rinda boshatari de bros, karababa shitari de bros. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Rianda bradi satari de bros. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci parce que tu nous donnes le discernement des saisons et des temps. Merci parce que tu communiques en nous cette sagesse de la vie. La sagesse de tes principes. La sagesse des lois, Seigneur Dieu. Car tes écritures nous forment non seulement à avoir la communion et l'intimité avec toi, mais ta parole nous enseigne, nous forme à vivre, Seigneur Dieu, avec les lois et les principes que tu as enseignés. Merci parce que tu les révèles dans nos cœurs et tu nous donnes, éternel Dieu, en toutes choses de marcher dans ta grâce et dans ta sagesse. Sois glorifié, sois magnifié pour tout ce que tu fais. Merci, Père éternel Dieu, pour cette parole. Merci pour ce que tu nous as donné ce soir. Au nom de Jésus, amen. Amen.
Si ce message vous a édifié, procurez-vous d'autres messages sur des thèmes tout aussi enrichissants. Au revoir et à un autre message.